Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gones qui cause culture sur lyondemain.fr.
Cette semaine, les Good Gones passent le bac. Ça va nous rajeunir. Nous parlerons éloquence avec Thomas Debray de l'Improvidence Théâtre qui propose un stage de préparation pour les futurs bacheliers. Gaëlle évoquera la carrière de Suzanne Kerr à l'honneur du musée de l'imprimerie et de la communication graphique. Et Guillaume est venu accompagné de Michael Pointepas, dont il nous fera découvrir la musique. Et bien entendu, nous terminerons par nos Gédéons, nos coups de cœur du moment. Et tout de suite de retour sur les bancs du lycée avec Thomas Debray. Bonjour.
Bonjour Gaëlle.
L'Improvidence Théâtre innove à nouveau en proposant un stage d'éloquence le dimanche 22 mai en vue de la préparation du grand oral. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer cette initiative en direction des bacheliers. À l'heure où s'exprimer en public est un impératif dans de nombreux secteurs, les comédiens spécialistes de l'impro sont tout indiqués pour partager leur expérience. Comment est née cette initiative, Thomas ?
Elle est née des bacheliers. Déjà, on a pas mal de cours, des ateliers hebdomadaires d'improvisation théâtrale. Et parmi ces cours, on a aussi des ados qui vont passer le bac. Et en discutant avec eux, on s'est dit, nous, on a un grand oral à préparer à la fin de l'année. C'est nouveau. Et on s'est dit, y a forcément quelque chose à faire entre les techniques d'improvisation théâtrale et le fait de savoir parler, d'être à l'aise, de travailler son éloquence, etc. Mais donc du coup, l'offre, elle est née d'eux, pour eux et avec eux.
J'ai présenté cette semaine le dispositif Haut-parleur au Célestin qui vise justement à sensibiliser les jeunes à partir de la seconde à la notion d'éloquence. Et effectivement, c'est en partenariat avec l'académie, etc. On pourrait penser que d'autres théâtres pourraient justement avoir des dispositifs de ce type, dont l'Improvidence Théâtre.
C'est une très bonne idée, bien sûr. Et puis, je pense qu'il y a énormément de candidats, entre guillemets, au bac.
Bien sûr.
Et que dans la société d'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix que d'être à l'aise à l'oral, de présenter des sujets, de rencontrer des inconnus, de travailler sa confiance en soi, sa confiance dans l'expression, dans le fait de partager des points de vue, de les confronter.
Alors c'est exactement ce que je disais en introduction. Aujourd'hui, je crois que dans de nombreux secteurs professionnels, mais dans la vie quotidienne également, l'oral a pris le pas sur l'écrit. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas ?
C'est la réflexion que je me faisais, où il y a peut-être 10-15 ans, c'était peut-être le contraire. On disait qu'il faut privilégier le fond plutôt que la forme. Et aujourd'hui, avec tous les outils numériques, digitales, etc., on n'a pas d'autre choix que d'être aussi très bon dans la présentation, d'être à l'aise pour attirer, être attractif.
Argumenter, convaincre,
exactement.
Plaire, séduire.
Et donc la forme, l'aisance à l'oral est aussi importante que le fond. Et je pense qu'on écoute beaucoup moins le fond si on n'est pas à l'aise à l'oral pour donner envie au public de... Je vais vous raconter une histoire, restez jusqu'au bout.
Ouais, c'est ça, oui, exactement. Qu'est-ce qu'on utilise comme technique quand on est comédien ? Qu'est-ce qu'on donne comme conseil si jamais un lycéen écoute notre émission ? Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme conseil, comme premier conseil ?
Alors, le premier conseil, c'est de parler fort. Je pense que la première chose avant de monter sur scène ou de parler devant un auditoire, parfois on peut avoir le trac ou le stress, etc. Et la première chose, c'est d'essayer de parler très fort. Parce que même si nous, on parle fort, porter sa voix, on a l'impression qu'on crie. Alors que pour le public, en général, on a une 3 ou 4 sur 10. Donc, il y a encore énormément de marge. Et surtout, ça nous rassure de nous entendre. Ça nous rassure d'entendre le flux de la voix à travers l'œsophage qui va jusqu'à l'estomac. L'estomac, c'est un peu la boule de stress.
Ouais.
Et quand l'estomac entend notre propre voix, il se dit « Ah, ok, c'est moi, donc ça va ». Et en général, c'est une façon de tuer le trac très rapidement lorsqu'on a une présentation à faire. Puis bien sûr, de parler d'un sujet qu'on maîtrise, parce que c'est encore plus facile.
Mmh.
Et donc, d'avoir ces deux critères, entre guillemets, qui nous permettent de bien démarrer. Et puis ensuite, pendant le stage, en fait, le matin, c'est plutôt des exercices techniques, pratiques, de portée de voix, de découvrir sa voix, découvrir son organe. et de se rassurer en disant c'est un très bel outil et on peut faire de chouettes choses à faire sur aussi bien la rythmique, le silence, varier les intonations et casser toutes les...
Mais ça leur parle ça aux jeunes puisque finalement ils admirent des slameurs, ils admirent des rappeurs, ils admirent des youtubeurs qui utilisent leur voix en permanence finalement dans leur travail.
Ah, y a donc probablement ils connaissent... Il y a probablement un lien sur le fait d'être entouré de youtubeurs, de tous ces influenceurs en disant bah, « Moi aussi, ça me fait un petit peu rêver d'essayer de tester un petit peu cette partie artistique. » D'ailleurs, on le voit hein, dans les ateliers d'impro, lorsqu'on travaille ce genre de thématiques, ils adorent et ils se marrent.
Est-ce qu'il y a des tics, par exemple, qu'ont les jeunes, des tics de langage? Moi, je peux observer, bien sûr, en discutant avec des ados, eh bien... Il y a quelques petits éléments qui reviennent systématiquement.
Je pense qu'il y a beaucoup de tics avec des mots que je ne comprends pas toujours, qui font partie de leur génération, qui sont propres à eux.
Et, qu'est-ce qu'on peut leur dire justement quand on passe à l'oral, devant des professeurs, quand on a un grand oral, comment on fait pour gommer ces tics de langage?
Déjà, on travaille le texte, donc du coup, en général, quand on écrit, quand on prépare son grand oral, on est moins dans l'improvisation, on improvise. Peut-être la posture, on improvise la voix, l'intention, mais le texte il est écrit, donc c'est assez facile de corriger un texte quand il y a...
Oui, mais on n'a pas le droit de lire, normalement, dans ce grand oral.
Non, mais effectivement, donc on l'écrit, on l'apprend, et puis ensuite, ensuite on corrige petit à petit en répétant. En fait, dans le stage, le matin c'est des exercices pratiques, et l'après-midi c'est vraiment un travail individuel sur lequel on répète, on refait les exercices, on donne des axes de travail très précis à chaque élève. Puis on gomme aussi, il n'y a pas que les tics de langage, il y a des tics de posture, des tics des mimiques, etc. Et il faut savoir que...
Les mains dans les poches,
et quand le,
balancier.
Exactement. S'exprimer devant un auditoire, ce n'est pas uniquement la parole, c'est aussi le corps.
Donc les gestes parasites.
Tous les gestes parasites qui racontent quelque chose. On a besoin de se sentir à l'aise, d'être ancré au sol lorsqu'on s'exprime et de gommer au fur et à mesure ces gestes parasites qui impactent la qualité du message qu'on envoie à l'auditoire.
Que de petits conseils qui seront précieux à nos futurs bacheliers. Je vois que ce qui est difficile parfois pour les élèves, les jeunes, c'est la mémorisation. Est-ce que vous avez, alors vous, bien sûr, vous avez un théâtre, le théâtre L'Improvidence, donc vous travaillez sur de l'improvisation. Donc le texte n'est pas un problème. Mais là, pour le grand oral, ils auront à apprendre, mémoriser des notions. Est-ce qu'on voit que c'est problématique?
Alors on n'a pas l'intention d'améliorer la capacité de mémorisation des élèves. S'ils n'apprennent pas leur texte, ils ne l'apprennent pas.
Oui.
Mais par contre, le fait de maîtriser ou de découvrir des techniques d'impro, on est énormément à l'aise lorsqu'on doit délivrer un texte. Et on a beaucoup moins peur de la page blanche ou du trou, entre guillemets.
Bien sûr.
Du coup, on sait, on est à l'aise pour combler d'une phrase ou deux phrases jusqu'à ce que le texte revienne. Mais on n'a pas de magie pour travailler pour la mémoire.
Ouais, c'est ça, exactement. Quand on est comédien, il y a quand même des techniques pour la mémoire, il semblerait. Donc, on en a parlé souvent avec les comédiens. Ça va se passer le dimanche 22 mai. Quelques jours plus tard, ils passeront leur oral. Combien de candidats pouvez-vous accueillir à l'Improvidence?
On limite des sessions qui vont être entre 6 et 8 élèves pour permettre à chacun de prendre le temps de préparer et d'avoir aussi un retour qualitatif du formateur. Il y a un formateur par session. Qu'on est à l'aise sur le fait de dire, s'il y a beaucoup de demandes, on prend deux groupes ou trois groupes.
Bien sûr. Je pense que la demande est forte aujourd'hui parce que les parents sont parfois démunis aussi face à cette question de l'éloquence, face à cette question de la prise de parole publique. Pour certains, le trac, vous en avez parlé. Et puis, même quand on doit le faire, c'est déjà suffisamment intimidant finalement pour les parents. Donc, ils sont démunis face à ça.
Et puis c'est nouveau pour les parents,
oui,
parce que quand ils ont passé le bac, il n'y avait pas ces épreuves-là, donc c'est quelque chose
de... On passait à l'oral les langues et le français.
Ouais, exactement, donc le fait d'avoir un grand oral et de devoir avoir cette nouvelle activité, entre guillemets, ce nouveau parcours, c'est nouveau, donc il n'y a pas forcément le repère chez les parents, qui peuvent être démunis, donc c'est aussi pour ça qu'ils font appel à des professionnels en disant « j'ai besoin de coacher un petit peu mon fils ou ma fille, de la rassurer ». Et l'avantage de faire un stage, en fait, c'est qu'on va un peu travailler tout ce qu'on... Ça va faire tomber tous les a priori qu'on peut avoir sur le fait que de devoir passer devant un auditoire. Et ça rassure très fort. Et après, on a deux, trois petits trucs en sortant du stage qui permet de dire « ok, avant le grand oral, je répète un petit peu, un petit peu d'exercice de respiration pour être bien aligné, pour concentrer toute mon énergie sur cette discipline et cette épreuve à passer qui deviendra géniale. Et mémorisable. On s'en souviendra toute notre vie, quoi.
Mémorable.
Mémorable, voilà, je cherchais le mot.
Alors, c'est l'Improvidence Théâtre qui organise ces stages. Vous êtes 6 rue Chaponnet, dans le 3e. Et pour vous trouver, c'est facile, hein, l'improvidencetheatre.fr. Voilà, donc comme ça, c'est très bien, c'est facile. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite, Thomas Debray. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les cartons en ce moment à l'Improvidence ? Une actu ?
Projet Improvidence éphémère. On est en train, suite au confinement, en fait, on est en train d'ouvrir un troisième théâtre sans théâtre. C'est-à-dire qu'on se rend dans des zones blanches culturelles où il y a des salles de spectacle dans
formidable.
Des villages de moins de 300, moins de 500 habitants. Et on a créé un spectacle qui s'appelle « Ça se passe ici ». Où l'idée, c'est de sublimer les petites histoires, les petites anecdotes des villages, d'animer un petit peu le territoire de ces villages avec un prétexte de faire un petit spectacle qui va parler de vous. Donc les comédiens, ils vont deux jours avant, ils rencontrent les habitants du village.
Et c'est à la demande des maires, vous vous déplacez.
En fait, on contacte les mairies, d'accord. On leur dit, est-ce que vous avez une salle ? Occupez-vous de rien, on s'occupe de tout.
D'accord.
On fait venir les comédiens, la logistique, la com, la billetterie.
Formidable.
Et l'objectif, c'est de diffuser un maximum la culture dans toutes ces zones blanches qui n'ont pas accès à un théâtre à moins d'une heure de route.
Ouais, bien
sûr.
Et donc,
si les gens peuvent pas se déplacer, on se déplace chez eux.
Formidable. Merci beaucoup. Formidable. Improvidence Théâtre, pour en savoir plus, votre site internet. Merci beaucoup.
Merci Gaëlle.
On est accueillis par des hurrahs, ça fait du bien, j'adore. On poursuit cette semaine avec toi, Guillaume. Tu es venu accompagné de Michael Cointepas, que nous avions rencontré avec Slamoural il y a quelques mois, presque une année passée déjà, puisque c'était pour Peinture Fraîche, me semble-t-il. Bonjour à tous les deux, je suis ravie de vous retrouver. Je passe mon micro à Michael.
Bonjour.
Bonjour Michael. Alors évidemment, je voulais recevoir Michael puisqu'il vient sortir un disque. Et ce disque, c'est plus qu'un disque, c'est un très bel objet d'abord, physiquement, parce qu'il y a une très belle pochette, et puis il s'ouvre d'une manière un peu particulière, avec un très beau dessin. Et ce disque, il est un petit peu particulier parce qu'il fait découvrir un auteur, personnellement, j'ignorais toute l'existence de ce monsieur. Alors tu avais déjà mis en musique d'autres auteurs qui étaient un peu plus connus, comme Emily Dickinson ou William Blake.
Et William Butler Yeats.
Voilà, c'est ça. Donc des gens en fait dont les noms sont un petit peu connus. Mais là, tu mets donc en musique texte d'Edwin Arlington Robinson.
Oui, c'est vrai.
Et là, honnêtement, ce monsieur, moi je le découvre, et pourtant trois fois prix Pulitzer de poésie, ce qui est quand même pas rien.
C'est vrai, et il a eu le premier prix Pulitzer de poésie.
Tout à fait. Alors explique-nous un petit peu comment tu as rencontré l'univers de cet auteur et comment tu as eu l'idée de mettre en musique ses poèmes.
En fait, dans le parcours que j'ai eu avec les auteurs, disons, au début, il y a un côté en rencontre un peu, notamment avec le premier album qui est basé sur les textes de William Blake. Et il y avait un truc, quelque chose de très spontané, d'évident... Et c'est vrai qu'en avançant, non, je me rends compte que j'ai vraiment besoin de faire un travail de recherche, quoi. Vraiment de chercher. J'étais parti sur. Je commençais à travailler sur des textes d'une auteure américaine de la même période qui s'appelle Edna St. Vincent Millay. Et par hasard, en essayant de me documenter sur Edna, je suis tombé sur la bio d'Edwin Arlington Robinson et il a une vie. Terrible. Et en même temps, ça nourrit son œuvre. Sur la fin de sa vie, il a eu vraiment de la reconnaissance, quoi. Il était vraiment reconnu.
On fait en quelques mots quand même le résumé de sa vie. Il était très amoureux d'une jeune femme, mais c'est son frère qui se marie avec elle.
Ouais,
ensuite, je crois que sa maman meurt de diphtérie.
Oui, c'est ça. Donc,
voilà. À l'époque, bien.
En fait, plus tu creuses, plus les histoires sont épouvantables.
J'allais y venir. Plus tu creuses, puisqu'en fait, ils ont enterré proprement, au sens propre, leur maman, puisque effectivement, la diphtérie faisait qu'on pensait.
Les services funéraires voulaient pas. Ils sont chargés, du coup,
donc ils ont creusé de leur mère. Ouais, c'est quand même un parcours assez singulier.
L'anecdote qui, moi, m'a le plus scotché, disons, c'est quand il est né, en fait. Il est né la même année que Yeats, en 1869. Et en fait, sa mère voulait une fille. Ses parents ont attendu, ils n'avaient pas de prénom. Et du coup, ils ont attendu. Et au bout de 6 mois, ils étaient partis en vacances. Les gens qui étaient là ont dit il faut vraiment qu'on lui donne un prénom, quoi. Donc, ils ont mis des noms dans un chapeau. Et son prénom a été tiré dans le chapeau. Et il détestait son prénom, qui est Edwin. Et la conséquence, c'est que sa famille le surnommait Win, ce qu'il détestait aussi, puisque c'était un peu le loser de la famille quand même. Et sa vie, toute sa jeunesse en tout cas, est émaillée comme ça d'anecdotes toutes les plus folles les unes que les autres, quoi, qui sont vraiment, comment dire, on ne sait pas s'il faut en rire ou en pleurer. Quoi.
C'est
à la fois épouvantable et en même temps ça s'accumule d'une manière où c'est presque drôle. Quoi.
Et c'est quelqu'un qui a vécu dans la période, on va dire, de la crise des années 30 aussi aux États-Unis. Enfin, tu as dit, il est né en 1869, mais il a connu, voilà. Au raisin de la colère de Steinbeck, c'est juste après, 40, et prix Pulitzer, mais pour le roman. Et donc, il y a quand même une acquaintance.
Absolument, ouais. En fait, le début des difficultés pour lui, c'est une crise économique qui a lieu dans les années 1890. Donc lui, il a une vingtaine d'années à ce moment-là. Il commence des études à Harvard. En fait, sa famille, son père était négociant en bois de construction, je crois, et sa famille a été vraiment frappée par cette crise. Et à partir de là, les problèmes s'enchaînent, quoi. C'est là qu'il a commencé à vraiment... il avait déjà vécu des épreuves difficiles dans sa jeunesse, mais économiquement, ça a été de plus en plus compliqué, quoi. Il n'a pas pu continuer et terminer ses études. Sur le papier, tout commençait bien pour lui parce qu'il était dans une famille assez aisée. Et au final, il avait deux frères aussi qui partaient pour avoir des vies brillantes. L'un des deux était le frère cadet était médecin et son frère aîné a repris l'industrie familiale. Mais les deux ont assez vite décliné et ont eu des fins.
Oui, dont l'un était quand même un peu, comment on appelle ça, opiomane. Enfin.
Ouais, voilà. Son frère qui était médecin, il avait une addiction au laudanum, je crois, produit de l'époque, qui est un opiacé, disons, et il a fini par sombrer là-dedans, quoi. Et son autre frère, qui avait épousé donc sa bien-aimée, qui s'appelait Emma Shepherd, lui, il a repris les affaires familiales, mais assez rapidement, il y a eu cette crise qui a fait qu'il s'est retrouvé ruiné.
En fait, toute cette vie constitue l'essence même de son œuvre. Donc toi, tu as mis en musique, mais tu chantes ces mots, en fait. Ouais. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que d'abord, le titre de l'album, c'est Exit, et l'album commence par ce titre, Exit, donc sortie.
Ouais.
Donc ça commence par la sortie. C'est un petit peu... ironique, vu tout ce qu'on vient de dire sur le personnage. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que quand j'ai écouté pour la première fois le premier morceau, évidemment, ça commence par une petite clarinette un petit peu aigrelette. Là. Ouais. Et donc, l'album est très acoustique, en fait. Tu peux c'est nous vrai, parler ouais. de la sonorité particulière.
Comme souvent, j'ai fait une grande partie de l'album tout seul, quoi. Et j'ai quand même fait appel aussi à des musiciens, à des amis musiciens que j'ai invités. Et sur ce morceau-là, j'ai fait appel à Maxime Ostache, qui est un ami... qui est clarinettiste, et j'avais fait un arrangement à deux voix de clarinette, mais j'ai mis longtemps à trouver la personne pour l'enregistrer, quoi. C'était un petit processus avec des rebondissements. Et il y a aussi de la flûte traversière,
oui,
qui est jouée par Fanny Rivolier, qui suit depuis longtemps le projet, avec qui j'avais déjà collaboré sur plusieurs autres morceaux dans le passé. Et il y a aussi du pedal steel, voilà, guitare américaine qui se joue un peu comme un lap steel,
oui.
Je sais pas si les auditeurs...
Qui joue à plat.
Voilà, ça d'accord, se joue à plat, ouais, avec une sorte de barre métallique. Mmh. Et il y a tout un système de pédalier qui permet de changer la hauteur des cordes. Alors, c'est vraiment un instrument typique américain, quoi.
Et c'est un instrument qui est assez dur à jouer, en fait. Hein. Il y a très peu de gens en France qui sont des bons...
En France, il y a quelques musiciens qui en jouent, je pense, et j'ai la chance de connaître un de ces musiciens. Et...
Alors justement, ça fait un son particulier, et j'ai lu sur ton site internet que tu as écrit un son crémeux comme un bon vin rouge puissant, mais dont les tanins sont bien fondus. Alors la question, c'est quel vin pour écouter ton disque ?
Oh là là, il y a du choix, mais je ne suis pas vraiment un grand connaisseur de vin, mais je suis originaire d'une région des Côtes-du-Rhône.
Et donc, revenons quand même, parce qu'on n'a même pas cité ton nom de scène, d'accord, Vesperland. Ouais. Alors, d'où ça vient ? Alors, il faut écouter le disque après les vêpres. Ou alors, c'est une référence à James Bond, parce que tu sais que le fameux...
Oui, Vesperlind.
Voilà, exactement. Puis surtout, le cocktail de James Bond s'appelle Vesper Martini.
Ah oui, c'est ça. Bah, voilà. En fait, je crois que l'origine du nom vient du fait que quand j'ai commencé, je faisais de la guitare chez moi le soir un peu tard. J'ai développé un peu ce truc de jouer tout doucement. Et de chantonner tout doucement aussi, quoi. Et après, j'ai cherché des idées de noms. Et il y avait ce côté du soir, la nuit. Et je sais plus, à l'époque, dans les chroniques d'albums, il y avait souvent un adjectif qui revenait, c'est vespéral.
Et alors, peut-être pour indiquer un petit peu le style de musique, même si c'est difficile de mettre les gens dans des cases, mais quelles seraient tes influences ? Moi, je pense bien sûr à Bonnie Prince Billy, Dick Chestnut, voilà, exactement.
C'est sûr que c'est des influences hyper importantes pour moi. Enfin, en tout cas, il y a un côté un peu américain, disons. Même si je pense que je m'approprie cet univers-là, avec ma sensibilité, ça a pour conséquence que c'est pas vraiment un disque d'Americana pur et dur comme certains artistes en France peuvent le faire d'ailleurs très bien. Mais, je pense qu'il y a une influence folk un peu anglaise aussi.
Oui, un peu la Nick Drake.
Ouais, voilà, ouais. Même si je pense qu'en termes de guitare, pour moi, c'est intouchable. Nick Drake, j'ai pas du tout les moyens de... En tout cas, c'est une musique qui me touche beaucoup dans le côté aussi, calme et un peu contemplatif du répertoire.
Oui, alors c'est amusant que tu dis ça parce que moi, évidemment, c'est calme et contemplatif. Mais pourtant, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de chaleur dans le disque. Et moi, je trouve que c'est un disque qui fait beaucoup de bien en ce moment. C'est de l'Americana, certes, c'est folk et tout ça. Belle chaleur qui sort de ce disque-là. Et terminer, avant que tu nous joues un morceau, tu peux nous indiquer qui a fait la pochette, parce que vraiment, c'est un très bel objet.
Il s'appelle Xavier Bonillo. Mmh. Et c'est un artiste avec qui j'ai collaboré depuis longtemps. Il est musicien aussi. Il a un groupe qui s'appelle Domiplan. Et là, en fait, il a pris une de ses œuvres qu'il a mis au format... Enfin, c'est lui qui avait l'idée du format, je crois que c'est Digifile 3 volets, mm-hmm. ou Digisleeve, je confonds toujours les formats de disques. Et donc ça se déplie en trois volets pour avoir une sorte de continuité.
C'est une très belle maison, en fait. Ouais. Voilà.
Absolument. Bah, en fait, ça fait écho à un des titres qui s'appelle The House on the Hill, qui parle d'une maison un peu oubliée, disons, et qui véhicule tout un passé comme ça de souvenirs.
D'accord.
Et je voulais répondre à ce que tu as dit juste avant, ça me touche un peu parce que c'est vrai qu'on m'a souvent dit que la musique que je faisais, et je pense même le choix des textes, notamment sur l'album autour des textes d'Emily Dickinson, mmh. où il y a un côté vraiment très dark, quoi. Et moi, c'est des choses que j'aime bien, que je vois pas comme lugubre et tout ça, mais en tout cas, c'est un retour que j'ai beaucoup entendu. Et c'est vrai que dans ce disque, je me suis donné un peu des défis, quoi. Et avant de le faire, c'est l'idée de faire des morceaux un peu plus énergiques. Et aussi le fait de peut-être me risquer à chanter des tonalités un peu plus hautes, quoi, mmh. par rapport à ma zone de confort habituelle, qui est de faire du folk à 12 à la noire, et c'est ça, dans un truc un peu crépusculaire que j'ai tendance à faire spontanément, mais qui c'est vrai que c'est des choses que j'avais un peu déjà fait sur les albums précédents. J'avais aussi envie d'essayer d'explorer un peu des nouveaux territoires, quoi, dans ce disque-là, donc ça me fait plaisir que tu dises ça.
Bon, on va t'écouter, hein, ouais. par ce morceau qui ouvre l'album et qui s'appelle Exit.
Thank you. for penance he would not confess, and for the faithful emptiness of early triumph.
On poursuit notre émission avec Gaël et avec toi Gaël, avec une exposition sous la forme d'une rétrospective consacrée à la créatrice graphique américaine Suzanne Kerr. Suzanne Kerr, finalement le grand public ne la connaît pas très bien, tu vas nous la faire découvrir aujourd'hui Gaël.
Absolument pas et malheureusement, hein, puisque cette exposition, donc Icon by Suzanne Kerr au Musée de l'Imprimerie et de la Communication Graphique, va essayer donc de rattraper ce manque. Pourquoi le grand public ne la connaît pas? Parce que vous connaissez tous les créations de la designer graphique Suzanne Kerr sans pouvoir malheureusement spontanément citer son nom. Des indices, elle est embauchée par Apple en 82. Steve Jobs et Andy Herzfeld lui confient une périlleuse mission: rendre facile d'accès et humaniser le premier ordinateur personnel, le Macintosh. La création graphique des icônes numériques, c'est Suzanne Kerr, qui a définitivement été l'un des atouts de la réussite de la convivialité de l'interface. Diplômée d'art de l'Université de New York, Suzanne Kerr soutient sa thèse en 78 sur l'usage de la caricature dans les sculptures d'Honoré Daumier et de Claes Oldenburg. Sujet prémonitoire. Suzanne Kerr a le profil idéal. Elle maîtrise les codes de la ressemblance, permettant au public d'identifier un modèle instantanément. Elle se dresse ainsi en pionnière des icônes numériques et du pixel art. Sa démarche s'axe sur ce qu'elle nomme l'économie d'expression, soit la nécessité pour une icône de transmettre sa signification d'un simple regard. Ce simple regard, c'est celui de tous les utilisateurs des systèmes d'exploitation Apple. Qui n'a jamais pointé, cliqué sur la paire de ciseaux pour couper, sur le pot de peinture pour remplir une forme de couleur? Qui n'a jamais actionné la petite main pour bouger un élément ou utilisé la poubelle numérique? Qui n'a jamais vu la petite bombe qui notifie une erreur système ou la montre qui tourne pour indiquer que l'ordinateur travaille? L'art de représenter ces métaphores puissantes, inspirées de l'histoire de l'art et de diverses cultures internationales, c'est l'œuvre de Suzanne Kerr. Son icône préférée date de 84. C'est le premier visage humain de l'ordinateur individuel, le Happy Macintosh. Représentation révolutionnaire d'un ordinateur au visage souriant qui apparaît lors du démarrage du système. Il est bien évidemment présent dans l'exposition dans une sérigraphie. Selon Suzanne Kerr, une icône a du succès si vous pouvez dire à quelqu'un ce qu'elle est une fois et qu'il ne l'oublie pas. En plus d'être immédiatement reconnaissable et directement intelligible, l'icône doit être universelle et facile à retenir. On clique toujours sur l'icône disquette pour enregistrer un document. Or, quel adolescent actuel l'a déjà matériellement utilisé? Aucun. Cela prouve l'impact d'interprétation de son design graphique. Identification, action, Suzanne Kerr a su transposer des tâches en icônes sur mesure, sobre, judicieuse, épurée, agréable, pratique et artistique. Quel défi de rendre intelligible l'expérience du sensible de l'art. La technique de Suzanne Kerr est d'envisager tous ces pictogrammes comme des indications routières et non pas comme de banales illustrations. Pour que le Macintosh soit instinctivement familier et clair, elle transforme des petites grilles millimétrées de pixels noirs et blancs en une famille de symboles. Même si elle utilise désormais beaucoup d'images vectorielles, Suzanne Kerr mentionne toujours l'analogie entre ses créations pixelisées et la broderie en point de croix. Broderie que l'on retrouve en écho dans l'exposition, en version contemporaine avec l'artiste de street art portugaise Ana, soit Ana Martins, qui enroule de la laine à tisser autour de vis insérées dans le mur, ou avec l'alphabet en broderie numérique de Marie l'écrivain. Sachez que le carnet de dessin et de croquis de Suzanne Kerr a été acquis par le MoMA, Museum of Modern Art de New York, en 2015. Cette acquisition a été l'un des points de départ pour Joseph Beltante, le directeur du musée de l'imprimerie et de la communication graphique, également commissaire de l'exposition, pour monter cette première rétrospective internationale. L'exposition propose un large éventail des créations graphiques de Suzanne Kerr. Pour Apple, elle a aussi dessiné des polices de caractère comme la Chicago, initialement nommée Elephant, que vous verrez typographiée dans l'exposition avec la carte de points d'origine en caractère bitmap. La designeuse graphique a aussi travaillé pour Next, Microsoft, Facebook, pour qui elle a réalisé de nombreux Facebook Gifts, les fameux cadeaux virtuels Facebook. Sachez que son icône du baiser présente dans l'exposition a été le cadeau virtuel le plus envoyé via Facebook à partir de sa mise en ligne en 2008. Suzanne Kerr a ensuite travaillé pour PayPal et Pinterest. Aujourd'hui, à 67 ans, elle œuvre pour Niantic Labs, spécialisée dans la réalité augmentée et à l'origine du jeu vidéo Pokémon Go. Joseph Beltante souligne qu'avec de tels choix professionnels, Suzanne Kerr a toujours eu une longueur d'avance. L'exposition met également en avant le rôle fondamental des femmes graphistes, notamment à travers le projet Woman in Type. À noter aussi dans l'exposition la police de caractère faune. Pourquoi faune ? Car elle a été créée à partir de la morphologie des animaux. Faune est l'œuvre d'Alice Savoie, également co-commissaire de l'exposition. Enfin, soulignons la toute récente publication du livre « Eyes, 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 se défaire de l'emprise visuelle » aux éditions 205. Écrit par Joseph Beltante, le directeur du musée de l'imprimerie et de la communication graphique, l'ouvrage questionne notre propension à penser les images. Comment affiner notre capacité d'analyse face à des images qui saturent notre regard et dont la symbolique est parfois nocive ? Joseph Beltante souligne combien le musée joue un rôle majeur en offrant un temps plus long, ce temps muséal privilégié qui incite à la réflexion. C'est sans doute pourquoi ce livre a été conçu comme une visite d'exposition, tel des cartels, des commentaires bilingues français-anglais figurent en vis-à-vis des images artistiques, médiatiques et documentaires. En aiguisant votre sens critique, cet ouvrage va vous arracher à la vision sprinteuse, distraite et crédule. L'exposition Icon by Suzanne Kerr est à voir jusqu'au 18 septembre 2022. Plus d'informations sur imprimerie.lyon.fr.
Merci beaucoup Gaëlle, ça donne vraiment envie de la découvrir. Merci. On termine notre émission avec nos Gédéons, les immanquables du moment. Alors Guillaume.
Eh bien moi je vais vous parler d'un autre disque, celui de Bertrand Belin qui vient de sortir chez Wagram, enfin chez 5-7, qui s'intitule Tambour Vision. Alors Bertrand Belin on le connaît, c'est son 7e disque déjà et en fait c'est une évolution dans la continuité. Alors ce qui est très étrange là maintenant c'est qu'il y a très peu de guitare, moins de guitare, plus de boîte à rythme, de mélotron et c'est presque un disque dansant, c'est assez gay. Alors je sais pas, moi j'ai envie de guetter là en ce moment, voilà, donc je trouve que c'est un disque assez passionnant. Les sonorités sont assez synthétiques, mais en même temps il y a sa voix qui est toujours particulière et ses textes complètement poético, burlesque, voilà, mais qui veulent dire des choses quand même sur la société d'aujourd'hui. Bertrand Belin n'est pas en concert dans la région prochainement, cependant ce samedi, donc 14 mai, il sera quand même présent à l'Opéra, puisque grâce à Richard Robert, il y a une sorte de soirée particulière qui va rendre hommage à un immense artiste décédé depuis quelque temps, Moondog, qui est un compositeur complètement barré et qui en fait avait sorti des disques à la fois de musique dite classique mais aussi un disque de chansons pop, voilà. Et donc en fait il y a toute une ribambelle de gens qui vont venir, dont Bertrand Belin à l'Opéra, pour reprendre des chansons de Moondog. Et entre autres il va y avoir Olivier Mélano qui va diriger tout ça, il va y avoir Midget qui est un groupe français aussi très étonnant, et encore il va y avoir Gavin Bryars qui est déjà venu à l'Opéra de Lyon, John Graves, et puis des pianistes comme Mélène Dalibert. Donc ça va vraiment être une très belle soirée. Mais Bertrand Belin ne jouera pas son disque et je pense qu'il sera chez nous à la rentrée plutôt pour
est-ce qu'on
tournée.
Écoute un titre ?
On va écouter un titre, alors toujours délicat de choisir un titre, puisque le, entre guillemets, le single s'intitule Que dalle tout, mais moi j'ai envie d'écouter un morceau qui s'appelle Pipe, parce que j'aime le mot.
Il me faudra déesse, dieu de mythe, idole, alcool, babiole et rite. Mais il me faudra déesse, babiole. Sans les oiseaux, oiseaux dans le ciel, hirondelles sous les toits dans leur niche. Quatre marabouts, quatre derviches. Si je dois casser ma pipe, car ceci est une pipe. Il me faut une sœur pour me faire un couteau divers, bibelot, pied de biche, trémolo, asticot. Il me faut une sœur pour me faire un couteau. Si je dois casser ma pipe, car ceci est une pipe. Si je dois casser ma pipe, car ceci est une pipe. Une pipe, un arbre ou un poteau, de quoi me tenir en attendant Godot, une encoche au cul de mes flèches, si je dois casser ma pipe. Il me faudra deux doigts pour ma sèche, une main pour ma mèche, goûter la pénombre. C'est ma pipe, car ceci est une pipe. Une pipe, car ceci est une pipe. Une pipe, une pipe.
On poursuit après ce titre de Bertrand Belin, Pipe. Gaëlle, donc cette semaine, qu'est-ce que c'est ton incontournable ?
Alors mon Gédéon de la semaine est le mets d'Adèle. Depuis 1997, le réseau d'art contemporain Adèle anime vivement la scène artistique lyonnaise et régionale. Promotion de l'art contemporain, organisation de visites lors des samedis d'Adèle et débat à travers les tables rondes d'Adèle. Forte de 40 structures membres, associations, espaces municipaux, galeries privées, fondations et musées, Adèle connaît le point d'orgue de sa programmation lors du mois de mai. Vernissage, parcours de visite accompagné, rencontres et performances. Cette année, c'est du 19 au 22 mai, avec une nouveauté, les rendez-vous gastronomiques en résonance. Le mai MAI d'Adèle se double du mai METS d'Adèle. Ainsi, la galerie Le 1111 dialogue avec le restaurant Le Casse-Museau. Le nouvel institut franco-chinois propose une visite de son potager. La galerie Françoise Besson s'associe avec l'association Art et Patrimoine Vieux Lyon et trois restaurants, Tête d'Oie, la Cour des Loges et le Bouchon Rouge. Et Françoise Besson, présidente du réseau Adèle, organise également une signature du livre La cuisine en partage de Sonia Esgulian, ouvrage publié en partenariat avec Handicap International pour ses 40 ans. J'essaye de vous donner faim, hein, donc pour aller voir l'art. Les initiatives et les événements sont nombreux et parfois se font écho, comme pour la galerie La taille de mon âme, qui se visite doublement via le Mai d'Adèle et via la Nocturne de la Place Bertone le 20 mai. Notez que des étudiants de l'EAC, École d'art et de culture, font de leur côté entrer l'art contemporain au sein de la chapelle de l'Hôtel Dieu avec d'autres galeries et proposent des visites. Pour connaître toute la programmation du Mai d'Adèle du 19 au 22 mai, direction adèle-lyon.fr.
Merci beaucoup Gaëlle. Allez, j'enchaîne avec Les passagers de la nuit de Michael Hirst. Il y a 4 ans avec Amanda, Michael Hirst posa déjà son regard de cinéaste sur Paris, ville meurtrie par les attentats. Elle est à nouveau le décor inspirant de ces passagers de la nuit à travers cette fois les insomnies tourmentées du personnage d'Elisabeth interprété par Charlotte Gainsbourg. Cette fiction intimiste confirme le talent d'un réalisateur qui, sans faire de bruit, construit l'une des œuvres les plus originales du cinéma français de mon point de vue. C'est l'histoire d'une famille qui se reconstruit après une rupture dans les années 80. Dit comme ça, ce n'est pas très engageant et pourtant, les comédiens et comédiennes sont formidables, les décors savamment choisis et l'histoire toute simple nous fait du bien. Il est question d'insomnie, de radio écoutée la nuit. Les doutes des auditeurs résonnent avec les nôtres. Savoir écouter, le sait-on encore? Le personnage d'Elisabeth, dans son appartement en haut d'une tour du quartier Beaugrenelle, fait face à la maison de la radio. Et un jour, elle pousse la porte. Je ne vais pas vous raconter ce film. J'aimerais pouvoir vous convaincre de le voir, car un film qui fait du bien en ce moment, eh bien, ce n'est pas du luxe. Un bon et beau moment. Les passagers de la nuit est à l'affiche en ce moment dans de nombreuses salles de cinéma de l'agglo. On se donne rendez-vous très vite pour un prochain rendez-vous. J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaëlle Bossier-Lombard et enregistrée à la Comédie Odéon, à retrouver sur liondemain.fr.